Alors, un psaume liturgique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? Un psaume qui, à un moment ou un autre, et sans doute à plusieurs moments, a servi de support à une liturgie, à un culte. Ici, la liturgie qui accompagnait les sacrifices d'action de grâce de la fête dite des tabernacles, ou fête des tentes. C'est une fête très ancienne, une fête qui existe encore aujourd'hui dans le judaïsme. Une fête qui célèbre en fait la fabrication du premier sanctuaire portatif, celui dont Dieu ordonne la fabrication justement à Moïse dans de nombreux chapitres de l'Exode. 13 chapitres et demi sont consacrés à la fabrication du tabernacle, de la tente qui permet à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. Et en plus, dans cette célébration, le judaïsme avait repris une fête encore plus ancienne, probablement beaucoup moins religieuse, la fête des récoltes, un rite beaucoup plus ancien que le judaïsme avait repris et incorporé à sa propre année liturgique, un peu comme le christianisme l'a fait avec la fête de Noël. Et donc, même si on ne connaît pas l'origine de ce psaume, on sait que certains versets jouaient un rôle dans cette célébration. Et comme beaucoup de psaumes, avant d'être fixés dans sa forme canonique, celle de la règle, c'est ce que veut dire canon, de la Bible, dans la Bible, telle qu'on le trouve dans la Bible hébraïque, il avait été travaillé et transformé au cours des siècles. Il a sûrement été raccourci. On a entendu plusieurs témoignages interrompus, sans beaucoup de détails. On a du mal à comprendre. On va essayer de revenir dessus. Et il a sans doute été réécrit, avant d'être intégré dans la Bible, par un savant lettré, parce que pour que le nom du Seigneur, le mot Yahvé, y figure 22 fois, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébreu. Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé, et on sait que les psaumes amusaient intellectuellement, spirituellement, mais amusaient aussi, à intégrer cette connaissance à ce psaume. Comme dans beaucoup de psaumes, les lettres de l'alphabet, vous le savez, jouent un rôle très important. Et plus tard, quand ce psaume a été traduit donc en grec, dans ce qui s'appelle la Bible des Septante, dont je parlerai au groupe des JMJ à leur demande à la prochaine réunion. Les deux passages choquants ont été modifiés parce que les mentalités et la spiritualité avaient évolué. Alors on peut comprendre ce psaume de plusieurs manières différentes. Certains, tout le monde en fait y voit, et ils ont raison, le chant d'action de grâce de tout un peuple libéré d'exil, c'est un chant du retour d'exil, le petit reste méprisé qui retrouve enfin sa dignité, son temple, et qui peut célébrer enfin, dignement, la fête des tentes. Et dans ce cas, bien sûr, celui qui dit « je », quelle que soit l'origine de ce « je », quoi qu'il lui arrive, ce « je » lui donne une dimension communautaire, et il représente toujours ce « je », le peuple d'Israël. Mais vous avez entendu donc que ce psaume est construit d'une certaine manière, même s'il a été réécrit, transformé, retransformé, pour être incorporé dans le psautier, c'est un peu le déroulement d'une partie d'un culte. L'arrivée, l'entrée au temple, le passage par la porte. Alors regardons d'abord qui parle ou qui chante, sans doute, dans ce culte. Il y a un prêtre, un chœur, c'est-à-dire une chorale qui va reprendre les formules rituelles. Sa miséricorde dure à toujours. Le peuple, et puis trois personnages qui arrivent, qui viennent, bizarrement, l'un après l'autre, témoigner des bienfaits de Dieu. Un prisonnier dont tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été mis au large, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la liberté. Un guerrier ou un simple pèlerin qui a été attaqué par des nations, donc par des étrangers, comme des abeilles, et qui les a taillés en pièces. Voilà le premier passage qui posait problème dans la Bible hébraïque. Parce qu'en réalité, la formule en hébreu dit carrément « Les nations m'ont entouré je les ai faits ou je les ai circoncis. Ce qui signifie, je les ai tués et je leur ai coupé le prépuce, comme David avec les 200 Philistins dans le premier livre de Samuel. Vous vous rappelez peut-être, et sinon je vous le rappelle, qu'au moment où ça commence à pas aller très bien entre Saul et David, Saul propose sa fille à David, mais il lui dit « Mais pour que je te la donne, il faut que tu me rapportes le prépuce de 100 Philistins. » Et ça veut dire que tu te battes tout seul contre 100 Philistins et que tu me rapportes leur prépuce pour prouver que tu les as tués. Et donc David, non seulement il le fait, mais avec 200 Philistins. Voilà. C'est un peu comme un scalp. Voilà, donc je reprends. On a le prêtre, le cœur des autres prêtres, la maison d'Aaron, le peuple, Israël, et les trois témoins, le prisonnier libéré, le vainqueur qui a massacré des étrangers, et le dernier dont je n'ai pas encore parlé, le malade guéri, celui qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les œuvres de l'Éternel, l'Éternel m'a châtié. » Donc ça veut dire « J'ai été malade, mais je suis guéri et je vivrai pour annoncer les œuvres de l'Éternel. » Donc, le schéma du culte est très clair et tout ce qui va être dit, tout ce qui est dit, ne peut être qu'une louange. C'est un acte de louange au Seigneur. Tous les témoignages sont insérés, vous l'avez entendu, dans cette liturgie consacrée à la miséricorde divine, c'est-à-dire à l'amour inconditionnel de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Et certains historiens donc de la Bible, certains biblistes pensent que dans une première version de ce psaume, de cette liturgie, les trois témoignages étaient plus longs, avec des détails qui permettaient justement de mieux les comprendre. Ils ont probablement été raccourcis, tout simplement parce que dans l'esprit du psaume, ce n'est pas les personnages qui sont intéressants en eux-mêmes. Simplement, ils sont intéressants uniquement parce qu'ils sont des preuves de l'amour de Dieu. La première preuve, donc, c'est le prisonnier libéré qui la donne. Et on ne sait pas pourquoi il était en prison, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu l'en a sorti. Peut-être, bien sûr, depuis, si on l'entend, ça prend un sens symbolique, une libération spirituelle. Mais peut-être qu'il s'agissait de quelque chose de très matériel au départ. Parce que le Seigneur, donc, l'a sorti de prison parce qu'il est celui sur qui on peut compter. Et quand on compte sur lui, on l'a entendu, on ne craint plus les humains, ni les gardiens, ni même les juges et les puissants. Et le prêtre lui répond, et il tire la conclusion de ce premier témoignage. Mieux vaut chercher un refuge dans le Seigneur, c'est-à-dire aller au temple et consulter les prêtres, éventuellement les rémunérer, que de se faire aider par d'autres hommes. Et le peuple reprend la phrase en remplaçant homme par puissant, les grands. Le peuple aussi préfère venir au temple. En principe, il est un peu à l'abri, mieux protégé justement des puissants de ce monde. La deuxième preuve de l'amour de Dieu pour son peuple, elle est donnée par un voyageur, alors marchand, pèlerin, guerrier, quelqu'un qui a été attaqué par des étrangers, on en parlait, comme par des abeilles, quelquefois la traduction dit des guêpes. Il a été vainqueur, et même dans la première version, il a circoncis leurs cadavres, comme David jadis. Alors le prêtre demande au peuple de chanter la gloire de l'Éternel avec les mots mêmes de Moïse, la droite de l'Éternel, la main droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et alors arrive le troisième témoignage, très raccourci mais très important, dont je parlais, celui du malade qui a été châtié. N'oublions pas qu'à l'époque, on pense que toute maladie est une punition envoyée par Dieu, mais qui a survécu et qui veut consacrer le reste de sa vie à louer l'Éternel. Et pour cela, il demande, il y a une logique, une progression, il demande qu'on lui ouvre les portes de la justice, c'est-à-dire du temple. Et donc ce culte, d'une certaine manière, est construit autour de trois personnes dont on aurait pu penser au départ que leur cas était complètement désespéré. Et voilà que, comme David, le rejeton de la souche de Jessé, David devenu roi et pierre angulaire de la construction d'Israël, ces trois personnes, oui, sont devenus la pierre d'angle de ce culte d'action de grâce. Et le peuple le reconnaît en disant « c'est un prodige à nos yeux ». Et voilà quelques détails qui ne trompent pas. Ce culte a lieu pendant un jour de fête, peut-être le sabbat, mais pas n'importe lequel, comme je disais tout à l'heure, celui d'une fête encore beaucoup plus importante, par exemple celle des récoltes devenue fête des tentes. Or, une fête ne va pas sans sacrifice au Seigneur, surtout au moment des récoltes. C'est bien normal de rendre à Dieu un peu de toute cette abondance qu'on a reçue. Mais c'est là qu'arrive le deuxième petit détail désagréable qu'on a entendu, parce que dans la traduction qu'on a entendu, il est conservé. Attacher la victime, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Les cornes de l'autel sont haussées les quatre angles. Aujourd'hui, on pense, mais qu'est-ce que c'est que ces barbares qui ont besoin de verser le sang, probablement, heureusement déjà, le sang d'un taureau ou d'un agneau, mais quand même, pour louer leur Dieu. Alors aujourd'hui, même si on ne le dit pas parce que voilà, on ne veut pas avoir l'air de critiquer, mais enfin on le pense. Mais certains le pensaient déjà avant, vers moins 200 avant Jésus. Quand les Juifs traduisent la Bible en grec, ça les choque déjà, ce vocabulaire des temps déjà anciens. Certains pratiquent, c'est vrai, toujours, ces sacrifices malodorants. Mais d'autres prient en attendant un nouveau David, une nouvelle pierre angulaire, le Messie, que certains reconnaîtront en Jésus, en pensant que cette image architecturale, cette histoire de pierre angulaire rejetée, s'applique à lui. S'appliquait à lui, qu'elle l'annonçait d'une certaine manière. Et puis, il faut penser que cette traduction en grec, elle est justement d'abord destinée par les sages qui l'ont faite, quelles que soient les conditions. Il y a beaucoup de légendes autour de cette traduction. Mais elle est destinée d'abord aux juifs qu'on appelle hellénisés, aux juifs qui ne parlent plus que grec. Mais aussi, elle va servir à présenter les lois et la foi d'Israël aux étrangers, aux autres qui parlent grec, aux nations. Et alors de quoi on va avoir l'air avec ces mutilations corporelles et cette boucherie? Donc, quelquefois, les traducteurs expliquent, interprètent. Par exemple, dans le livre d'Esther, celui qu'on lit actuellement dans le groupe d'études bibliques, eh bien, ils expliquent, ils ajoutent pour expliquer. Et ici, d'autres fois, ils n'ajoutent rien, mais ils adaptent, ou en imaginant, c'est le cas, qu'un mot a plusieurs sens en hébreu, ils vont choisir le plus compréhensible, le moins choquant. La circoncision des cadavres va devenir une simple victoire par les armes. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même, on dirait, plus soft. Ça fait mieux. Et dans la scène près de l'autel, la victime a disparu. La corde sert seulement à maintenir les cortèges qui s'approchent de l'autel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce psaume nous fait voyager dans la foi et dans le temps. Il commence par nous ramener à des temps très anciens, si on l'écoute. Des temps où la recherche de Dieu, oui, passait par des mutilations et des victimes traînées à l'autel. Mais en même temps, on y trouve une véritable évolution de la foi et de la louange, une foi toujours authentique, mais qui s'exprime avec des mots et donc des idées différentes. Et finalement, ce n'est pas étonnant que les premières communautés chrétiennes et beaucoup de croyants depuis pensent et pensait et pense toujours que ce psaume annonçait la venue et le sort du Messie. Parce que Jésus lui connaissait certainement ce psaume, et les évangiles le citent souvent. Alors maintenant, si nous voulons voir où nous en sommes aujourd'hui de ce voyage, c'est intéressant. Il suffit peut-être de regarder enfin une troisième traduction, celle que nous avons chantée. Alors si vous regardez, ou si vous avez regardé tout à l'heure, dans le livre de Cantiques, c'est écrit en petit, tout en bas. La première traduction, 1543, elle est faite par le poète français, protestant, Clément Marot. En 1543, par rapport à l'histoire de ce psaume, autant dire hier. Cependant, comme elle est en langage du XVIe siècle, elle a été réécrite plusieurs fois et la version qu'on a chantée de Robert Chapal, je crois, date de 1970. Et elle est bien différente du psaume d'origine, cette traduction. Sauf qu'on vient de voir qu'il n'y a pas de psaume d'origine, en fait. Il y a des psaumes d'origine. Dans le psaume de 1970, on n'a plus besoin de faire la guerre. Le feu a consumé les ennemis. Et pendant le culte, plus de victimes, plus de cortège même plus d'autel. Vois le seul don que je t'apporte, l'amour d'un cœur purifié. C'est-à-dire qu'on est passé du rite du sacrifice, du rite sacrificiel, au don de soi. Mais nous savons, nous croyons, en tout cas ici, en tout cas moi je le crois, que cette transformation ne s'est pas faite toute seule ni par hasard. Elle a été rendue possible parce qu'entre l'époque de l'Ancien Testament, même traduit en grec, et la nôtre, quelque chose ou plutôt quelqu'un s'est produit. Une nouvelle pierre angulaire, une nouvelle foi communautaire qui, tout en intégrant et en aimant cette tradition qui nous a construit, nous appelle depuis 2000 ans à prier autrement, à croire autrement et à vivre autrement. Christ est venu transformer le sacrifice en don de soi et cette transformation nous a transformés. Et malgré les reculs, bien sûr, et la barbarie toujours présente, bien sûr, elle ne cesse de nous transformer. Christ est venu donner un sens différent, complémentaire aux antiques paroles du prêtre. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et maintenant, pour nous, pour chacun de nous et pour nous ici ensemble, ces paroles s'accomplissent en lui. Amen.